Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le terme « Rat Pack » fut utilisé de la fin des années 1940 au début des années 1950 pour nommer un groupe d'amis à Hollywood organisé de façon assez informelle autour d'Humphrey Bogart et de sa conjointe Lorraine Bacall. Ce groupe comprenait les artistes Frank Sinatra, Judy Garland, Lorraine Bacall, Sid Luft, Humphrey Bogart, Swifty Lazard, Nat King Cole, Errol Flynn, Mickey Rooney, Nathaniel Benchley, David Niven, Catherine Hepburn, Spencer Tracy, George Cukor, Michael Romanoff et Jimmy Van Heusen. L'origine de ce nom n'est cependant pas claire. Une des versions de la légende dit que celui-ci aurait été donné au groupe lorsque l'actrice Lorraine Bacall trouvait plusieurs membres plus âgés du groupe fatigués, épuisés et plus hagard que d'habitude en les voyant revenir d'une soirée à Las Vegas. Ce serait à ce moment qu'elle se serait exclamée « You look like a goddamn rat pack ». Une autre thèse aux origines de ce thème proviendra d'une abréviation de Holmesby Hills Rat Pack en référence à la maison de Bogart et Bacall qui servait de lieu de rencontre régulièrement au même groupe d'amis. Cette dernière thèse proviendrait de la fille de Judy Garland, Lorna Luft, qui prétendra que le terme venait d'une journaliste, Hedda Hopper, qui voulait se faire inviter dans le groupe, mais qui se verra finalement refuser l'accès, les membres existants ne voulant pas que leur soirée privée soit exposée au grand public. Ce sera à ce moment que la journaliste écrira un article peu flatteur sur les membres du regroupe. Durant les années 1960, le groupe comprenait Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop et Peter Lawford. Après l'éviction de Lawford, suite à une querelle entre lui et Sinatra, ce seront Sinatra, Martin et Davis qui seront considérés comme les membres principaux du groupe, surtout après la mort de Bogart en 1957. Cela nous transporte en 1985, année durant laquelle un journaliste du magazine New York, David Bloom, avait comme tâche d'écrire un article sur le jeune acteur Emilio Estevez, l'un des fils du comédien Martin Sheen. Cependant, Estevez invitera Bloom à passer la soirée avec lui en compagnie également de plusieurs autres jeunes acteurs, dont Rob Lowe et John Nelson au Hard Rock Café. C'était une sortie comme les autres pour le groupe qui s'était lié d'amitié pendant le tournage du film The Breakfast Club et également celui de St. Elmo's Fire. Cependant, ce sera durant cette soirée que le journaliste décidera de recentrer son article sur ce groupe de jeunes acteurs, les autres membres du groupe n'appréciant guère Bloom qui semblait jaloux de leur succès. Et donc, ce sera le 10 juin 1985 que sera publié un article intitulé « Hollywood's Rat Pack ». Ce nouveau terme, inspiré par celui du Rat Pack, décrivait ce groupe de jeunes vedettes de cinéma très en vogue, âgés d'une vingtaine d'années, groupe qui incluait alors Andrew McCarthy, Demi Moore, Emilio Estevez, Rob Lowe, Ally Sheedy, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall et John Nelson. À la parution de l'article, le groupe d'acteurs se sentira trahi, surtout Estevez. L'article de Bloom se concentrait principalement sur Estevez, Lowe et Nelson et les dépeignait sous un jour très négatif. L'étiquette du Brat Pack, que les auteurs détestaient, leur colla cependant à la peau pendant plusieurs années, ces derniers étant considérés comme des individus talentueux avant l'apparition de cet article, puis perçus comme non professionnels, ce qui détruira la carrière d'un grand nombre d'entre eux par la suite. Face à l'attention négative croissante dont ils firent l'objet, ces acteurs cesseront rapidement de se fréquenter. Avec le temps, plusieurs autres acteurs seront associés avec le Brat Pack, dont James Spader, Robert Downey Jr., Kevin Bacon, Matthew Broderick, John Cryer, John Cusack, Nicolas Cage, Jamie Gertz, Melissa Gilbert, Mary Stuart Masterson, Sean Penn, Kiefer Sutherland et finalement, Lea Thompson. Interviewé par le livre de Susanna Gora paru en 2010, « You Couldn't Ignore Me If You Try », The Brat Pack, John Hughes and Their Impact on a Generation, le journaliste David Bloom admettra qu'il n'aurait jamais dû écrire cet article, portant alors préjudice à ce groupe de jeunes comédiens très talentueux. Quoi qu'il en soit, le Brat Pack désigne aujourd'hui généralement les acteurs de deux films sortis la même année qui seront le point central de ce programme double d'aujourd'hui, soit The Breakfast Club, mis en scène par le réalisateur John Hughes, et Saint Elmo's Fire, mis en scène par le réalisateur Joel Schumacher. Donc, rangez vos livres d'école et préparez-vous à trouver votre identité dans le monde adulte d'une société où le rêve de jeunesse est mis à l'épreuve par les embûches de la vie, alors que je vous parlerai de deux films qui mettront au monde l'un des groupes de jeunes les plus influents de leur génération, j'ai nommé le Brat Pack.
Non, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time.
Save your battery and your disposition. When it rains, you can still enjoy the movie with a Drizzle Guard rain visor. Simply press suction cups to the windshield as shown in the detail on your instruction sheet. Drizzle Guards are on sale now at the concession stand.
Refresh yourself. It's intermission time. The concession stand is open and ready to serve you.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again.
And now, it's showtime.
Out of life. Go out to a movie.
Il est très exactement 7h06. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de questions?
Si. Est-ce que l'inspecteur Colombo est au courant que vous avez fait une razzia dans sa garde-robe?
Un surdoué, une fille à papa, un athlète, un révolté et une détraquée.
J'arrive pas à croire que ce genre de choses m'arrive à moi.
Avant la tombée de la nuit, ils feront tout ce qu'il ne faut pas faire.
Les filles n'arrivent jamais à avaler la fumée. C'est comme ça, c'est tout.
Ils livreront tous leurs secrets.
D'abord, je suis nymphomane.
Et tes parents le savent?
Ils prendront tous les risques.
Ça fait du bien de commettre de mauvaises actions.
Hein? Et ils seront plus proches les uns des autres qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.
Pourquoi tu as fait ça?
Tu l'aurais jamais fait.
Oh. Breakfast Club. Un club qui n'exista qu'un jour.
Je ne veux plus être seule. Jamais.
Maintenant, t'es plus obligée.
Mais qui devait changer toute leur vie.
Je vous considère comme mes amis. J'espère que je me trompe pas.
Universal présente Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, John Nelson, Molly Ringwald et Ali Sheedy dans un film de John Hughes.
Pourquoi t'es si gentil avec moi? Parce que tu me laisses faire.
Breakfast Club.
The Breakfast Club, ou Le Breakfast Club, est une comédie dramatique qui a été distribuée par les studios Universal Pictures le 15 février 1985. Ce film américain d'une durée de 97 minutes a coûté 1 million de dollars à produire et a amassé plus de 51,5 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain John Hughes, lui qui nous a donné les films Ferris Bueller's Day Off, Weird Science et Curly Sue. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve deux producteurs, soit Ned Tannen, ce producteur américain qui nous avait donné American Graffiti, Smokey and the Bandit et Crocodile Dundee, ainsi que John Hughes, ce producteur américain qui a produit des films tels que Some Kind of Wonderful et She's Having a Baby. Au poste de scénarisation, c'est encore John Hughes ici qui est présent, ce scénariste américain qui a écrit les scénarios de Mr. Mom, 16 Candles, Home Alone et Uncle Buck. Dans la distribution, on y retrouve les comédiens Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall, John Capellas, John Nelson, Molly Ringwald et Ali Sheedy. Pour diverses infractions, 5 élèves d'un high school doivent passer un après-midi en retenue. Réunis dans la bibliothèque de l'école, les jeunes, 2 filles et 3 garçons, apprendront à se connaître en échangeant des confidences sur leur vie familiale. Le scénariste, réalisateur et producteur John Wilden Hughes Jr. naîtra à Lansing, dans le Michigan, le 18 février 1950. Seul garçon, entouré de 3 sœurs, le jeune homme passera les 12 premières années de sa vie à Grosse Pointe, dans le Michigan, où il devint un fervent supporter du joueur des Red Wings de Détroit, Goldie Hawn, ce dernier lui envoyant plus tard un gilet qui sera porté par le personnage interprété par l'acteur Alan Rook dans son film Ferris Bueller's Day Off en 1986. En 1963, la famille Hughes déménagera dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois, où il fréquentera le collège Grove, puis le lycée Glenbrook North, cette dernière institution l'inspirant pour ses films les plus célèbres. C'est également dans ce lycée qu'il rencontrera Nancy Ludwig, une pom-pom girl avec qui il tombera amoureux et qui deviendra plus tard son épouse. Adolescent, Hughes trouvera refuge dans le cinéma. Après avoir quitté l'Université d'Arizona, Hughes commencera à vendre des blagues à des artistes reconnus tels que Rodney Dangerfield ou John Rivers. Grâce à ses blagues, il décrochera un poste de concepteur-rédacteur publicitaire chez Needham, Harper & Steers à Chicago en 1970, puis chez Leo Burnett Worldwide en 1974. Le travail de Hughes pour le compte de la compagnie Virginia Slims l'amènera fréquemment à visiter les bureaux du magazine National Lampoon. Devenant par la suite collaborateur régulier de ce magazine, c'est à cet endroit qu'il allait créer l'une de ses meilleures histoires, inspirée par ses voyages en famille durant son enfance, histoire qui s'intitulerait alors Vacation 58, ce qui deviendra plus tard l'inspiration pour le film National Lampoon's Vacation. Après avoir travaillé sur son premier scénario, soit National Lampoon's Class Reunion, Hughes écrira coup sur coup les scénarios de National Lampoon's Vacation et Mr. Mom, qui permettront alors au jeune auteur d'obtenir un contrat de 3 films à titre de réalisateur avec les studios Universal Pictures. Alors qu'il travaillait le scénario de ce qui deviendrait son tout premier film, soit 16 Candles, Hughes débutera également son travail sur l'écriture de ce qui deviendra alors The Breakfast Club. Écrit en moins de 48 heures, le scénario sera d'abord intitulé Detention, puis The Lunch Punch, avant que Hughes ne change pour le titre final grâce au fils d'un ami scolarisé qui avait à l'époque un cours de retenue appelé The Breakfast Club. Ce projet se devait à l'origine être sa toute première réalisation en carrière, mais le jeune réalisateur se verra forcé de réaliser en premier 16 Candles, film qui sera alors salué par la critique en 1984. Lorsqu'il présentera pour la première fois le concept de The Breakfast Club, les exécutifs des studios Universal ne comprenaient pas comment un film sur des adolescents en retenue pourrait susciter de l'intérêt pour les spectateurs, ceux-ci étant alors habitués aux comédies pour adolescents classées « restricted » de l'époque, telles que « Risky Business »,« Porky's » et « The Wildlife ». Soucieux de critiquer la formule de ce genre de comédie, Hughes convaincra finalement ses investisseurs qu'avec un budget modeste de seulement 1 million de dollars et un tournage qui aurait lieu en un seul lieu, il pourrait considérablement minimiser les risques de sa production. Fort impressionné par les excellents résultats de 16 Candles, qui avait rapporté tout près de 24 millions de dollars au box-office américain avec un faible budget de moins de 7 millions, les exécutifs de Universal donneront alors le feu vert au projet de film. Ayant assisté à la présentation de son projet aux exécutifs de Universal, le producteur Ned Talon acceptera de produire le nouveau long-métrage de Hughes à travers sa compagnie Channel Production, ce dernier venant tout juste de quitter son poste de président des studios Universal. Suite à l'accord des studios pour le financement et la distribution de son nouveau long-métrage, Hughes se mettra à la tâche pour trouver sa distribution. Ses deux premiers choix se porteront sur les jeunes comédiens de 16 ans Molly Ringwald et Anthony Michael Hall, avec qui il avait déjà travaillé sur 16 Candles. Hall obtiendra alors le rôle de Brian Johnson, Hughes engageant par la suite la véritable mère et sœur du jeune comédien pour interpréter la mère et la sœur de son personnage à l'écran, alors que pour Ringwald, cette dernière se verra offrir le rôle d'Alison Reynolds, mais Ringwald refusera alors le rôle, désirant plutôt interpréter le personnage de Claire Standish, ce que Hughes acceptera au final, donnant alors le rôle d'Allison à la jeune actrice de 23 ans, Ally Sheedy. La jeune actrice avait obtenu le rôle parce que Hughes se rappelait de l'audition de Sheedy sur 16 Candles, où la comédienne s'était présentée avec un œil au beurre noir suite à un accident de tournage. Ce regard sombre et gothique marquera le réalisateur au point que ce dernier lui donnera le rôle, pensant alors à ses yeux. Ce sera par la suite l'acteur de 23 ans Emilio Estevez qui sera initialement choisi pour le rôle de John Bender. Cependant, Hughes était incapable de trouver quelqu'un pour interpréter le personnage d'Andrew Clark et décidera alors de le lui donner, Bender devenant alors le dernier rôle à être attribué, les acteurs John Cusack et John Nelson étant les deux derniers finalistes pour le poste. Hughes portera alors son choix vers Cusack, mais changera d'idée à la toute dernière minute et prendra au final l'acteur John Nelson, alors âgé de 24 ans, car Cusack ne paraissait pas assez intimidant pour le rôle. Rick Moranis avait initialement été choisi pour le rôle du concierge, mais l'acteur sera renvoyé par le producteur Ned Tannen, ce dernier n'appréciant guère l'interprétation de Moranis, qui avait alors décidé de jouer une caricature russe outrancière qui ne convenait pas, selon le producteur, au ton sérieux du film. Moranis sera donc finalement remplacé par l'acteur John Capellos. Afin de s'assurer du bon choix de ses comédiens, John Hughes incitera ses jeunes acteurs à se faire passer pour des élèves du lycée Glenbrook North dans la banlieue nord de Chicago, où Hughes avait lui-même étudié. La situation a rapidement dégénéré lorsque les frasques de Nelson sont devenues incontrôlables. Nelson jouait son rôle avec tellement de conviction que tous les élèves le croyaient beaucoup plus jeune que son véritable âge. Se faisant passer pour mineur, il a utilisé une fausse carte d'identité pour acheter de la bière à certains adolescents et prétendait même rester à l'hôtel, faisant croire aux autres étudiants du lycée que son père était en prison et qu'il logeait à cet endroit en attendant sa sortie. Le tournage principal, qui débutera le 28 mars 1984 et qui s'achèvera en mai, se déroulera au lycée Main North de Des Plaines dans l'Illinois, institution qui était fermée depuis mai 1981. Après avoir répété durant plus de 3 semaines, les acteurs tourneront leur scène dans l'ordre chronologique, passant la majeure partie du temps dans un décor quasiment identique, mais beaucoup plus grand, représentant la bibliothèque du lycée où ils se trouvaient, cette dernière étant jugée trop petite pour l'action du film. Ce sera le directeur de la photographie, Tom Delruth, qui aura la lourde tâche d'éclairer le plateau de tournage. Tourné dans cette bibliothèque artificielle, bâtie sur 2 étages, le film a bénéficié d'un éclairage dont la chaleur extrême, dégagée par les projecteurs, causera d'énormes problèmes aux acteurs. En effet, les températures oscillaient entre 35 et 43 degrés Celsius, provoquant des coups de chaleur au point où les acteurs s'endormaient. Pour remédier à ce problème, 2 assistants réalisateurs supplémentaires seront embauchés spécialement pour maintenir la jeune équipe éveillée. Plus de 10 000 livres seront donnés à la production afin de remplir ce gigantesque décor, et ce, par la Bibliothèque publique de Chicago. John Nelson était tellement investi dans son rôle qu'il restait dans son personnage entre les prises. Il ira même jusqu'à harceler régulièrement hors caméra la comédienne Molly Ringwald, ce que John Hughes n'acceptera pas, menaçant alors de renvoyer le comédien. Ce sera finalement l'acteur Paul Gleason qui dut intervenir pour défendre Nelson, louangeant son dévouement au rôle, ce qui sauvera alors l'emploi du jeune comédien. Durant les quelques 32 jours que dureront le tournage, les jeunes comédiens seront choyés, ayant la possibilité de plaisanter sur le plateau et d'improviser une grande partie de leurs dialogues, notamment dans l'une des scènes les plus emblématiques du film, où ils devront raconter la raison pour laquelle ils se trouvaient tous en retenue. D'ailleurs, toujours dans cette séquence, les acteurs fumeront finalement de l'origan au lieu de la marijuana. De plus, les liens entre les différents comédiens deviendront si forts qu'Anthony Michael Hall et Molly Ringwald deviendront inséparables pendant le tournage et auront brièvement une relation amoureuse. Lorsqu'à la fin du tournage surviendra, les adieux entre comédiens et membres de l'équipe technique furent si difficiles pour les jeunes acteurs que pour adoucir ce dernier jour de tournage, le réalisateur John Hughes offrira à chaque comédien et comédienne un morceau de la rampe d'escalier de la bibliothèque en souvenir de cette expérience. Pour la grande scène de danse, Molly Ringwald était censée être la seule à danser. Cependant, cette dernière n'était vraiment pas à l'aise à danser seule et convaincra finalement Hughes de faire en sorte qu'elle soit rejointe par les autres acteurs. Mais, malgré cette magnifique entente, quelques moments de tension surviendront sur le plateau de tournage. En effet, à l'origine, le scénario original comportait une scène à la Porky's où les garçons s'éclipseront pour espionner l'équipe de natation synchronisée du lycée et tomberont sur une professeure au sein nu. Lorsque les 2 jeunes actrices confronteront leur réalisateur au sujet de cette séquence misogyne, ce dernier les écoutera et coupera simplement la séquence du scénario. C'était à l'origine l'actrice et scénariste Karen Lee Hopkins qui devait incarner le professeur en question, cette dernière devant faire ses débuts comme actrice au cinéma, mais se voyant alors remerciée de ses services. Une autre situation surviendra alors que l'acteur John Capellos tentait de réaliser une de ses 2 scènes dans le film, le comédien, prenant son rôle très au sérieux. Alors qu'il jouait son rôle, Emilio Estevez et John Nelson tentaient de le faire rire. Devenu agacé par leur manque de professionnalisme, Capellos évoquera la crise cardiaque dont avait été victime l'acteur Martin Sheen durant le tournage d'Apocalypse Now, sans savoir que Estevez était dans la vraie vie l'un des fils de Sheen. Estevez sera vexé de cette situation, mais tout rentrera dans l'ordre lorsque Capellos présentera ses excuses au jeune comédien, et ce devant son père, ce dernier éclatant alors de rire, trouvant drôle l'analogie. Pour la scène finale, dans laquelle Bender quitte l'école en marchant, Nelson devait tout simplement marcher en direction du coucher de soleil. Après avoir tourné plusieurs versions de la séquence, Hughes lui demandera d'être spontané et, à la dernière minute, le jeune comédien lèvera le poing en l'air, cette séquence étant alors conservée au montage final. Ce sera la monteuse Dorothy Allen qui s'occupera du montage du long métrage, cette dernière ayant monté des films tels que The Hustler, Bonnie and Clyde, Dog's Day Afternoon et Reds. Le premier montage sera de plus de 150 minutes. Ce seront les exécutifs de Universal qui demanderont alors à Hughes de réduire son film à moins de 90 minutes, forçant ce dernier à couper de nombreuses scènes, dont une scène d'amour passionné entre Claire et Bender d'une durée de pas moins de 7 minutes. Au niveau musical, ce sera le musicien pop britannique Keith Forsey qui produira la bande originale du film. Pour la chanson « Don't You Forget About Me », cette dernière sera écrite par le guitariste Steve Shift et le producteur Keith Forsey pour le film. Forsey et Shift se sont inspirés d'une scène où un introverti et une brute se lient d'amitié en l'absence de témoins. Le groupe Simple Minds a d'abord refusé d'enregistrer la chanson, estimant ne devoir enregistrer que leur propre composition. Ce sera finalement leur manager, Bruce Findlay, qui les convaincra, leur organisant alors une projection privée du long-métrage pour tenter de les faire changer d'avis, mais ces derniers persisteront dans leur refus. Forsey proposera alors la chanson à Brian Ferry, de Roxy Music, qui refusera car il travaillait à ce moment sur son album « Boys and Girls », qui sera de lui, distribué en 1985. Après avoir essuyé des refus de Corey Hart, Billy Idol, ainsi que le groupe The Pretenders, Forsey se liera d'amitié avec les membres du groupe Simple Minds, qui accepteront alors de tenter l'expérience, enregistrant alors la chanson en moins de 3 heures. Au final, Don't You Forget About Me sera la chanson qui propulsera le groupe Simple Minds dans les années 1980. La chanson deviendra leur plus grand succès en Amérique du Nord, atteignant la première place des charts aux États-Unis et au Canada et se classant 7e au Royaume-Uni. The Breakfast Club sera présenté en avant-première à Los Angeles le 7 février 1985, puis sera distribué en salle 8 jours plus tard. Il se classera 13e au box-office nord-américain de 1985 avec plus de 45,9 millions de dollars de recettes et amassera un 51,5 millions de dollars dans le reste du monde, terminant alors en 16e place. En 2005, Anthony Michael Hall, John Nelson, Molly Ringwald, Paul Gleason et Ali Sheedy recevront le Silver Bucket of Excellence Award lors des MTV Movie Awards et ce, pour le 20e anniversaire de la sortie de la comédie dramatique. Le réalisateur John Hughes avait envisagé une suite au film centrée sur les retrouvailles des adolescents des années plus tard, alors qu'il purgeait une peine de retenue à l'université. Ce film ne verra finalement jamais le jour, Hughes étant victime d'une violente crise cardiaque le matin du 6 août 2009, tout près de l'hôtel où il résidait alors qu'il était en visite à New York. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital Roosevelt, où son décès sera constaté. Il n'avait que 59 ans. Du côté de la monteuse Dorothy D.D. Allen, celle-ci décédera le 17 avril 2010 à Los Angeles, en Californie, des suites d'un AVC. The Breakfast Club fut qualifié de film emblématique des années 1980. En 2008, le magazine Empire le classera 369e sur sa liste des 500 plus grands films de tous les temps, avant de se retrouver en 38e place sur cette même liste en 2014. De même, le New York Times placera le long-métrage sur sa liste des 1000 meilleurs films de tous les temps, alors que le magazine Entertainment Weekly le classera numéro 1 sur sa liste des 50 meilleurs films de lycée. Du côté des points forts, eh bien, la force première de cette comédie dramatique est sans contredit sa distribution impeccable. John Nelson et Michael Anthony Hall se démarquent totalement du lot ici, alors que Ali Sheedy est amusante dans son rôle presque muet. L'approche, bien qu'extrêmement caricaturale de John Hughes, permet à ce dernier de bien accrocher le spectateur, ce dernier comprenant alors rapidement les différents milieux de nos protagonistes et les raisons premières de leurs problèmes. D'ailleurs, bien que le développement soit quelque peu prévisible, on s'amourache de ces différents personnages et on louange le fait que le réalisateur-scénariste n'ait pas plongé son histoire dans la traditionnelle histoire de jeunes délinquants remplis de vulgarité et de dépravation sexuelle. La mise en scène est sobre ici, le metteur en scène laissant ses acteurs faire tout le boulot, faisant confiance à ces derniers en n'essayant pas de détruire leur travail avec des jeux de caméra extrêmes qui auraient pu alors détourner l'attention du spectateur. Un autre acteur important, bien qu'invisible, est la musique ici, ainsi que les différentes chansons utilisées dans ce long-métrage qui lui donnent un dynamisme qui appuie avec délice le visuel du long-métrage. Mais du côté des points faibles, eh bien, The Breakfast Club se veut un film de bavardage, ce qui pourrait lasser le spectateur qui n'est pas attiré par ce type de spectacle, le film possédant tout de même par moments quelques longueurs. Hughes nous présente ici cinq personnages dont la psychologie n'est pas très complexe et la façon dont la résolution est beaucoup trop facile, l'objectif de ce film n'étant pas de sombrer dans une psychologie lourde, mais de plutôt nous présenter ici de façon superficielle les difficultés rencontrées par la jeunesse de cette histoire, le message étant encore très pertinent aujourd'hui. Les mœurs des années 1980 pourraient choquer certaines personnes qui seraient incapables de se remettre dans cette époque où les jeunes pouvaient démontrer des gestes et des dires très respectueux entre eux, voire même sur le bord du harcèlement. The Breakfast Club demeure tout de même une œuvre forte de sa période qui ne pourrait être refaite de la même façon aujourd'hui avec tous les regroupements de protestations existants. Le personnage de Allison est excellent lorsque ce dernier ne parle pas, mais perd tout intérêt lorsqu'elle commence à s'exprimer de façon confuse, devenant alors un des personnages les moins intéressants du groupe. Quant au scénario, celui-ci se perd quelque peu par moment, nous donnant des dialogues faibles et des situations qui ne sont pas très claires. De plus, par moment, la psychologie de certains personnages semble se contredire, probablement due à l'écriture rapide de son créateur. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film The Breakfast Club 4 à l'époque. Aujourd'hui, il est coté 3. Moi, j'y vais encore avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également pour une classification pour tous, malgré un langage vulgaire.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
And now, on with the show.
I can't remember who met who first, or who fell in love with who first, All I can remember is the seven of us always together.
Booyah, booyah, booyah! Ah, ah, ah!
It's not just infatuation, Kevin. She's not just a girl. She's the only evidence of God that I can find on this entire planet.
Where did you meet Wendy again?
Prison.
Hi, Felicia. How you doing? Me? Oh, you know, it ain't easy being me.
You know all those nights we stayed up talking? How come you never made a pass at me?
I'm gonna get you a red, lacy baby doll, Nike.
Alec, I'm very happy in your old pajamas.
Well, I'm happy when you're out of my old pajamas.
Alec is becoming a Republican and he wants to get married. Oh my God. Do you ever feel like you're not accomplishing anything at all?
I think I'm in touch with that emotion.
You're not gonna believe how out of hand it's gonna be.
Saint Elmo's Fire, ou Le feu de Saint Elmo, est un drame social qui a été distribué par les studios Columbia Pictures le 28 juin 1985. Ce film américain d'une durée de 108 minutes a coûté 10 millions de dollars à produire et a amassé plus de 37,8 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Joel Schumacher, lui qui nous avait donné les films The Lost Boys version 1987, Flatliner et Cousins. Au poste de producteur, on y retrouve la productrice américaine Lauren Schuller, elle qui avait produit les films Pretty in Pink, The Wolverine et Constantine. Au poste de scénarisation, c'est le scénariste américain Joel Schumacher, lui qui avait écrit le scénario de Car Wash, Flawless, The Wiz et DC Cab, qui sera soutenu ici par le scénariste américain Carl Kurlander, lui qui avait écrit les scénarios de My Tale of Two Cities, ainsi que certains épisodes de la série télé Saved by the Bell, The Class. Dans la distribution, on y retrouve Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, John Nelson, Ali Sheedy, Mare Winningham et Andy McDowell. Un groupe de jeunes gens qui se sont liés d'amitié pendant leurs études se retrouve assez régulièrement dans un café-restaurant de Washington. À travers une suite d'incidents, les ambitions et les affections de ces jeunes subissent diverses épreuves. Né à Los Angeles le 20 septembre 1931, Ned Tannen se retrouvera dans l'armée de l'air américaine après avoir obtenu son diplôme de l'Université de la Californie. Suite à son service militaire, il sera embauché en 1954 au service du courrier de la compagnie MCA et sera par la suite promu comme agent à la fin des années 1950. Au début des années 1960, il s'occupera de la distribution des émissions de télévision pour MCA Universal après le rachat des studios Universal Pictures par la MCA. Suite à cela, il contribua à la création du label UniRecord en 1967 et travaillera avec des artistes tels que Neil Diamond, Elton John et Olivia Newton-John. En 1970, Tannen deviendra vice-président de la production chez Universal Pictures après avoir été superviseur de production sur le film Taking Off de Milos Forman, distribué en salle en 1971. En 1976, il obtiendra le poste de président de la division cinéma des studios Universal après avoir obtenu une série de succès en travaillant sur des productions telles que American Graffiti ainsi que Jaws. Après avoir donné le feu vert aux productions de Smokey and the Bandit, The Deer Hunter, Melvin and Howard, Missing, Coal Miner's Daughter et The Blues Brothers, ces productions établiront alors un record de recettes en salle, mais ce sera véritablement en 1982 qu'il obtiendra le sommet de son succès en donnant le feu vert au film de science-fiction du réalisateur américain Steven Spielberg, E.T., The Extraterrestrial. Épuisé, Tannen prendra la décision de démissionner des studios Universal en décembre 1982, désirant prendre du recul de l'arène hollywoodienne et fondera alors sa propre compagnie de production de films, soit Channel Productions. Basée à Universal City, son entreprise devra alors prioriser les studios Universal pour le financement et la distribution de ses films, sauf si les exécutifs des studios décidaient de refuser les 10 projets. Cherchant activement des projets novateurs destinés aux jeunes, Tannen fera alors la rencontre du scénariste John Hughes par l'entremise de l'assistante de direction de Tannen, Michelle Manning, cette dernière ayant été fortement impressionnée par le scénario de Hughes, alors intitulé « 16 Candles ». Après le succès de ce long-métrage, Tannen continua sa relation avec Hughes en produisant son prochain film, soit « The Breakfast Club ». Durant cette période, Carl Kurlander écrira une nouvelle qui sera intitulée « St. Elmo's Fire », qui sera inspirée de son amour non partagé pour une serveuse rencontrée alors qu'il travaillait comme groom à l'hôtel St. Elmo de Chautauqua, dans l'État de New York. Kurlander utilisera cette nouvelle pour décrocher un stage au studio Universal, où il fera la rencontre du réalisateur de vidéoclips Joel Schumacher, après avoir été chargé d'aller chercher le déjeuner du metteur en scène, ce dernier travaillant alors sur la réalisation du film DC Cab. Un an après leur première rencontre, Kurlander deviendra l'assistant de Schumacher et en profitera pour lui parler de sa nouvelle, le réalisateur, raffolant du titre et proposant alors d'en faire un long métrage sur les difficultés de la vie de tous les jours rencontrées par de jeunes adultes après les études. Kurlander et Schumacher travailleront alors tous les deux sur le scénario, se basant sur leurs expériences de vie personnelle. La personnalité de Kurlander sera alors scindée entre deux personnages, soit celui de Kevin, l'écrivain journaliste, et Kirby, l'étudiant en droit obsessionnel, les deux devenant alors colocataires dans l'histoire. De plus, une portion du personnage de Kevin sera directement inspirée du meilleur ami de Kurlander à l'université. Pour le personnage de Wendy Beamish, le personnage de bienfaitrice interprété par Mare Winningham, celle-ci sera inspirée par deux amis de Kurlander, soit Laurie Levinson et Wendy Jacobs. Pour le personnage de Leslie Newsberry, interprété ici par Ally Sheedy, celle-ci sera inspirée d'une camarade de classe de Kurlander nommée Patty, que Kurlander avait rencontrée à l'époque par l'intermédiaire de Laurie Levinson. Finalement, le personnage de Billy Hicks, qui sera interprété ici par le jeune Rob Lowe, était un étudiant fêtard et déjanté, Schumacher ayant imprégné le parcours d'autodestruction du personnage de sa propre dépendance à la drogue au milieu des années 60 et de la lutte qui s'en suivit pour reconstruire son existence. Quant au bar Saint-Elmo's, le repère de la bande sera inspiré d'un véritable bar étudiant à Georgetown, appelé à cette époque « The Tombs ». Finalement, les échanges entre Kevin et une prostituée seront basés sur une conversation entre une véritable prostituée et un chauffeur de limousine que le réalisateur Joel Schumacher avait entendu par hasard. Une fois le scénario terminé, les deux hommes l'enverront à différents studios qui le refuseront alors, qualifiant même les différents caractères de personnages les plus odieux qu'ils aient lus durant leur carrière. Cependant, le producteur Ned Tannen mit la main sur le script et était reconnu pour défendre les réalisateurs débutants comme Schumacher, pour qui il avait déjà donné son feu vert à ses deux premiers films, soit la comédie fantaisiste The Incredible Shrinking Woman ainsi que DC Cab. Tannen acceptera alors de produire le film et signera donc une entente de financement et de distribution avec les studios Columbia Pictures. Cependant, le patron du studio demandera que soit supprimée toute l'intrigue concernant l'obsession maladive du personnage d'Estevez pour celui d'Andy McDowell, la jugeant beaucoup trop embarrassante. Schumacher refusera, et ce ne sera que face à l'enthousiasme des spectateurs lors des projections test pour la scène du baiser dans le chalet de ski qu'il admettra que le réalisateur avait eu raison de l'inclure dans son histoire. Une fois l'entente d'un budget de plus de 10 millions de dollars pour la production du long-métrage signée, la recherche de la distribution débutera. Des centaines de jeunes acteurs seront alors auditionnés pour les 7 rôles principaux. Anthony Edwards, John Cryer et Lea Thompson feront partie des acteurs auditionnés. Ce sera cependant Lauren Shuler Donner, qui agissait ici à titre de productrice du film, qui proposera les acteurs Emilio Estevez, John Nelson et Ally Sheedy, et ce, grâce aux recommandations du réalisateur John Hughes, qui avait travaillé avec eux sur le film The Breakfast Club. Impressionné par le travail des trois jeunes acteurs, ce sera cependant Schumacher qui dut se battre avec les exécutifs de Columbia Pictures pour que ceux-ci acceptent de les engager. La comédienne Demi Moore fut choisie pour le rôle de Jules après que Schumacher l'ait vu fuir une audition de John Hughes. Il demandera alors à son assistant de la rattraper et de se renseigner pour savoir si cette dernière était une actrice. Après avoir remporté son rôle, Moore dut suivre une cure de désintoxication avant le tournage à cause de sa dépendance à la cocaïne. Par la suite, la production paiera un accompagnateur qui demeurera aux côtés de l'actrice pendant toute la durée du tournage afin de s'assurer que cette dernière ne fasse pas de rechute. Schumacher pensait initialement que Rob Lowe ne convenait pas au rôle de Billy, l'acteur étant à l'origine choisi pour le personnage de Alec, interprété au final par le comédien John Nelson. Ce n'est qu'après de nombreux appels de son agent et un discours passionné expliquant pourquoi il tenait tant au rôle que Lowe obtiendra alors ce dernier. Pour l'actrice Mare Winningham, cette dernière était enceinte lors du tournage du film, étant alors mariée et déjà mère de famille. L'une des caractéristiques de Wendy étant son embonpoint, cette situation deviendra bénéfique pour tout le monde. Finalement, Andrew McCarthy prit l'avion de New York à Los Angeles pour réaliser son audition. Terrifié et incapable d'impressionner les producteurs, celui-ci sera alors persuadé d'avoir raté le rôle et sera renvoyé à l'aéroport dans la Volkswagen de l'assistant du réalisateur au lieu de la limousine qui était venue le chercher. Sur le chemin du retour, McCarthy confia à l'assistant combien il désirait ce rôle. Lorsque l'assistant a rapporté cela au réalisateur, Schumacher décidera alors de le prendre pour le rôle de Kevin. Juste avant le début du tournage principal, Ned Tannen, qui devait agir ici à titre de producteur, sera promu à la présidence de la division cinéma de Paramount Pictures, forçant alors ce dernier à devenir un producteur exécutif. Le tournage principal débutera donc le 15 octobre 1984 à Washington, D.C., puis à Los Angeles en Californie, ainsi qu'à Truckee au Nevada pour le tournage des scènes de neige. L'université privée catholique jésuite de Georgetown refusera d'autoriser le tournage des prises de vue sur son campus, son administration invoquant un contenu jugé problématique, notamment au niveau des relations sexuelles avant le mariage. Par conséquent, ce sera l'université publique du Maryland, située à 15 km de là, qui sera alors utilisée. Pour l'emblématique bar de St. Elmo's Fire, celui-ci sera construit sur le terrain des studios Universal en Californie. La production du long-métrage deviendra rapidement chaotique en raison des fréquentes improvisations, des conflits d'égo et, parfois, du comportement difficile des jeunes acteurs. De plus, le style exigeant et le comportement abusif du réalisateur Joel Schumacher n'aidera pas à la situation, ce dernier hurlant fréquemment à plein poumon et se comportant comme un tyran, créant un climat de stress intense qui a épuisé mentalement et physiquement toute l'équipe de production. Le cri souvent scandé « Abougata, Bougata, Bougata, ha, ha, ha » provient d'une plaisanterie entre les acteurs du studio. Certains d'entre eux avaient remarqué en riant que lorsqu'un groupe de personnes absorbées par une conversation privée éclatait de rire, cela ressemblait toujours étrangement à cette phrase. Durant la production, Emilio Estevez et Demi Moore commenceront à se fréquenter et seront pendant un temps fiancés sans toutefois se marier. En effet, le couple annulera leur mariage prévu fin 1986, début 1987, lorsque Moore découvrira qu'Estevez avait été infidèle avec une ex-petite amie, le mannequin Carrie Sally, qui était tombée enceinte pendant une brève pause dans leur relation. Ce sera durant le tournage de ce film que surviendra l'incident du Brat Pack, thème inventé par un article du magazine New York qui apparaîtra à la sortie du film. Le tournage rapide et exigeant se conclura donc en janvier 1985. Alors que le film se trouvait en montage, le compositeur David Foster sera choisi pour réaliser la bande originale du film, la première, composée par le Canadien. Plus d'un mois et demi de travail seront nécessaires pour l'écriture des différentes chansons. Pour la chanson « St. Elmo's Fire »,« Men in Motion », celle-ci sera écrite par John Parr et Forster, ce dernier ayant été impressionné par la chanson « Naughty Naughty » de John Parr. Après avoir visualisé un reportage sur l'athlète canadien Rick Hansen, qui parcourait alors le monde en fauteuil roulant pour sensibiliser le public aux lésions de la moelle épinière, Parr décidera de soutenir cette campagne en écrivant des paroles qui s'accorderaient vaguement avec le film, tout en faisant directement référence aux efforts de Hanson. Parr et Forster écriront alors la chanson en moins de 2 heures, un vendredi après-midi. Pour la réalisation du vidéoclip, la production ne disposait du chanteur John Parr que pour une seule journée. Cela a contraint toute l'équipe principale à boucler le tournage en moins de 24 heures, ce qui sera extrêmement exténuant pour tous les gens impliqués. La chanson « St. Elmo's Fire, Men in Motion » atteindra alors la première place du Billboard Hot 100 et y restera pendant plus de 2 semaines en septembre 1985, alors que le « Love Team » de « St. Elmo's Fire », thème instrumental composé par David Foster, se hissera à la 15e place. Pour la chanson « Give Her a Little Drop More », que l'on entend dans le film lorsque les personnages entrent au bar-restaurant « St. Elmo's », celui-ci sera composé par le trompettiste de jazz britannique John Chilton. Le film connaîtra un bon démarrage, rapportant 6,1 millions de dollars lors de sa première semaine. Au final, le film amassera plus de 31,9 millions de dollars sur le continent nord-américain et un 5,9 millions de dollars additionnels dans le reste du monde, surpassant les échecs commerciaux des studios Columbia Pictures cette année-là, soit Silverado, The Bride et Perfect. Malgré ce léger succès, tous les acteurs refuseront de revenir pour une suite en raison de l'expérience épuisante vécue sur le plateau de tournage, certains indiquant qu'ils préféraient prendre leur retraite plutôt que de la revivre. Pour Rob Lowe, ce dernier remportera le Golden Raspberry Award du pire acteur de soutien pour son travail dans ce film lors de la 6e cérémonie des Golden Raspberry Awards. En août 2009, Sony Pictures Television recevra un engagement de scénario assorti d'une clause pénale pour adapter le film en série télévisée. Cette série devait utiliser le film comme point de départ et source d'inspiration, tout en présentant 6 nouveaux amis. Ce seront Topher Grace et Gordon Kewin de la compagnie de production Sergeant Hall Productions qui proposeront cette idée au producteur Jimmy Tarse, qui recrutera par la suite le scénariste Dan Bukatinski pour écrire le pilote, avec approbation du concept par le réalisateur Joel Schumacher, ce dernier devant être également impliqué comme l'un des producteurs. La chaîne américaine ABC devait s'occuper du financement de cette série d'une heure, qui suivra alors les expériences de 6 diplômés de l'Université de Georgetown se retrouvant au St. Elmo's Bar and Grill. Bukatinski, Topher Grace et Jimmy Tarse devaient à cette époque interpréter certains des rôles principaux. Après une longue période de développement de plus de 10 ans, il fut annoncé que la chaîne américaine NBC développerait une série télévisée avec Josh Berman comme scénariste et producteur exécutif. Malheureusement, suite au décès du réalisateur Joel Schumacher le 22 juin 2020, ce projet sera abandonné, Schumacher perdant la vie aux mains d'un cancer à New York. Il avait 80 ans. Quant au producteur Ned Tannen, ce dernier décédera de mort naturelle à sa résidence de Santa Monica le 5 janvier 2009, à l'âge de 77 ans. À la fin des années 1980, la carrière de plusieurs acteurs du Brat Pack sera légèrement freinée par des problèmes de consommation, mais également à cause de cet article de journal qui détruira la relation entre chacun des membres du groupe. En juin 2024, suite au succès du documentaire « Bratz », qui réunissait certains membres du Brat Pack, il fut annoncé qu'une suite au film « St. Elmo's Fire » était en développement préliminaire chez Sony Pictures, le tout dépendant du retour des acteurs Andrew McCarthy, Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, John Nelson, Ali Sheedy et Mare Winningham. En juin 2025, Rob Lowe confirmera au magazine People qu'un scénario pour une suite était toujours en cours d'écriture. Au 21e siècle, l'expression du Brat Pack a perdu sa connotation négative, leur film étant décrit comme représentatif de la génération des années 80. Ces longs-métrages ont changé la façon dont de nombreux jeunes de cette époque considéraient leur vie personnelle ainsi que leur entourage, tant au niveau de la distinction de classe à l'amitié, de l'amour au sexe et de la mode à la musique. Aujourd'hui, les membres du Brat Pack sont considérés comme parmi les contributions culturelles populaires les plus influentes de leur époque. Du côté des points forts, eh bien, ce qui fait le charme de St. Elmo's Fire est principalement sa distribution qui, malgré que presque tous les personnages nous sont antipathiques ici, réussit à nous accrocher et ainsi suivre les diverses intrigues entremélangées qui nous présentent les mœurs de cette jeunesse des années 1980. La mise en scène de Schumacher est dynamique ici, le réalisateur nous donnant un rythme assez bien instauré, le tout soutenu par une excellente trame musicale. En dépit d'un certain danger de dispersion, cette histoire nous montre les difficultés rencontrées par les jeunes lorsque ces derniers quittent l'école et se cherchent une raison d'être dans notre société, une société sans pitié qui ressemble à un animal prédateur qui se nourrit de l'espoir perdu de ses victimes. Tout comme The Breakfast Club, le message ici véhiculé est encore aujourd'hui très pertinent. Mais du côté des points faibles, eh bien, tous les personnages sont antipathiques et cela pourrait faire en sorte que, et ce malgré l'excellent travail des comédiens, que le spectateur ait de la difficulté à s'identifier à ces derniers. Le scénario semble incomplet ici, arrivant à un développement et une résolution facile afin de clore cette histoire en moins de 2 heures, le personnage de Jules étant ici la principale victime, un personnage mal développé qui est continuellement absente de l'écran et dont l'histoire semble se passer hors de notre champ de vision. De plus, les intrigues sont en général superficielles, tout comme certains dialogues qui manquent totalement de profondeur, le film ne s'attardant qu'à effleurer ces différents sujets complexes afin d'éviter de perdre son spectateur. Malgré cela, il y a une magie dans St. Elmo's Fire, un je-ne-sais-quoi qui fait que ce produit fonctionne malgré tout. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film 4, j'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma a coté le film général, j'y vais également pour une cote pour tous, malgré un contenu quelque peu mature. Du côté des sorties DVD, eh bien, The Breakfast Club est disponible en français et en anglais, en Blu-ray, en DVD, en HD DVD, ainsi qu'en 4K. Cependant, je crois que la version 4K ne comprend pas la version française. Il vous est possible également d'avoir une version Criterion du film The Breakfast Club, cette version étant disponible en DVD, en Blu-ray, ainsi également qu'en 4K. Pour St. Elmo's Fire, le film est disponible en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray, et il vous est possible également d'avoir ce film sur format HD DVD.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Ladies and gentlemen, our next attraction!
Coming soon to a theater near you.
Oh, man, where do you hear this?
8 o'clock.
What is it, man? You guys want to go see a dead body?
Columbia Pictures presents...
Kid's gone. They're never going to find him.
Not where they're looking.
A Rob Reiner film.
I'm never going to get out of this town, am I, Gordy? You can do anything you want, man. So
stand by me.
There's 4 of us, Eyeball. You just make your move. You're dead.
Rated R.
Now in select cities. Sneak preview August 16th in additional cities.
Paramount Pictures presents a new film by John Hughes, starring Matthew Broderick.
Yeah, that's me.
Ferris Bueller's Day Off.
He gives good kids bad ideas.
He's such a sweetie.
The story of one man's struggle to take it easy.
He's a righteous dude.
Rated PG-13.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.